Merci d'être là. Daniel Lemire est né à Drummondville.
Hein?
Pour ceux qui... Ça s'invente pas. Pour ceux qui étaient des lecteurs de la revue Crowe, vous allez deviner que ce lieu de naissance le prédestinait à une carrière dans le domaine de l'humour. Daniel a créé Oncle Georges au lundi des AA en 1982. Et dès l'année suivante, il est devenu la vedette du festival Juste pour rire, avec des personnages comme Yvon Travailler et, bien sûr, Ronnie Dubé. Également animateur et comédien, Daniel a accumulé par la suite les succès en salle, tout en devenant le maître d'œuvre du Bye Bye de 98 à Radio-Canada. Également scénariste, Daniel se tourne vers le petit écran et signe en 2003 la série Smash, avec la collaboration de Jean-Pierre Plante, et en plus, il y interprète le personnage principal. En 2010, Daniel Lemire revient à la scène après 10 ans d'absence pour notre plus grand bonheur. Il partage aujourd'hui avec nous son amour des livres. Daniel, en premier lieu, quelques questions pour camper votre bibliothèque et vos habitudes de lecture. À quoi ressemblent vos livres? Êtes-vous un maniaque pour lesquels ça ne doit pas paraître qu'on a lu le livre quand on l'a terminé ou ils sont raturés, cornés, annotés?
Ils sont cornés, en tout cas, ça c'est sûr. Des fois, des petites taches de nourriture. Mais je ne suis pas le genre à annoter, par exemple, parce que je me dis toujours, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut le lire, ça peut être déplaisant, ça. Mais non, moi, les livres, c'est des objets vivants. On marque la page comme il faut, puis tout ça. Mais et j'aime beaucoup aussi que les livres circulent, parce que, évidemment, il y a beaucoup de livres que j'ai relus, des fois même 2 et 3 fois. Mais quand même, j'aime ça quand j'aime quelque chose, de le partager avec les autres.
T'sais. Puis vous n'avez pas l'obsession que le livre revienne?
Ben, l'obsession, pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des livres plus rares, des fois. Ça c'est sûr que... Alors, quand je le prête, je le dis à la personne, écoute, c'était possible qu'il revienne. Et il y a plusieurs de mes amis qui se sont fait casser 2 jambes.
Avez-vous un moment privilégié pour la lecture ou c'est n'importe quand vous êtes dans les transports? Comment ça se passe?
Non, pas les transports, mais... L'après-midi, parce que quand j'ai des spectacles le soir, l'après-midi, je fais pas une sieste, mais en tout cas, je me repose un peu. Alors ça, c'est un bon moment pour la lecture. Et le soir, venir me coucher aussi. Ça, c'est les 2 moments privilégiés pour moi. J'ai un bon livre, par exemple, tous les moments sont bons. On les trouve.
Êtes-vous amateur de beaux livres, de livres de tabac café, de sur l'histoire de l'art, etc.?
Pas maniaque. Disons que j'aime ça, là. Tu feuilleter ça, mais tu sais, c'est pas... Non, c'est... Les livres de tasse à café, c'est pas ma tasse de thé.
Il y a plusieurs types de lecteurs, mais il y a 2 types très caractéristiques. C'est ceux qui sont fidèles à certains auteurs, donc qui vont à tous les automnes acheter le nouveau roman d'une telle ou d'un tel, ou il y a ceux qui batifolent d'un auteur à l'autre. Vous, vous êtes fidèle ou...
Ben, je suis les deux. C'est-à-dire que quand il y a certains auteurs fétiches, là, moi, aussitôt que Jim Harrison ou Tom Sharp sort un livre, William Boyd, je vais me le procurer, ça, c'est certain. Par contre, je butine, j'essaie des choses. C'est vraiment une question de feeling, hein, dans le sens que moi, je lis le résumé du livre, parce que c'est comme ça que j'ai fait beaucoup de découvertes, d'ailleurs. Et si ça m'accroche, bien là, écoute, je le feuillette un peu, puis je vois... Parce que des fois, c'est pas juste le livre, c'est la manière qui est imprimée aussi, c'est la manière qui est présentée. Des fois, c'est un peu rebutant. Ou si c'est écrit tellement petit que ça prend une loupe, là. Ça, c'est sûr que... Mais si le livre est bon, moi, écoute, il n'y a pas vraiment là, de restrictions, disons.
Beaucoup des livres que vous avez choisis, dont on va discuter, sont des livres d'auteurs américains ou britanniques. Est-ce que vous lisez plus en traduction ou dans la langue originale?
Bien, maintenant, les traductions sont vraiment très, très bien faites. Alors, parce que des fois, ça paraît, hein, évidemment, une mauvaise traduction, bien, c'est moins intéressant. Mais j'ai pas trop de problèmes avec ça. J'ai lu des livres dans la langue originale aussi, mais... Étant donné que j'ai un anglais qui est quand même me débrouille, là, mais je sais pas. très fluide. Là. C'est pas aussi fluide qu'en français, évidemment. Alors, j'ai moins de plaisir à lire. Là. Je travaille plus fort. Mais je préfère les traductions, effectivement.
Donc, c'est un bel hommage, parce qu'on dit toujours que beaucoup de vos livres, c'est des livres d'humour. On dit toujours que c'est la chose la plus difficile de traduire un texte humoristique. Donc, c'est un bel hommage à la qualité des traducteurs.
Ah, tout à fait. Okay. C'est vraiment très bien fait.
Alors, vous avez été, je dirais, dans la catégorie supérieure raisonnable, parce que d'habitude, on demande aux gens de choisir 10 livres. Le record de tous les temps, c'est 29 de Christiane Charette. on a eu une fois 10 exactement, mais vous, 12. C'est pas mal. Ah. Ça a été difficile d'arrêter vos choix?
Bien, je te dis que j'aurais pu en choisir 40, là, dans le fond, parce que je suis un assez bon lecteur. Je lis quand même pas mal. Ceci dit, bon, ça c'est un résumé de mes goûts. Tu sais, parce qu'il y a d'autres auteurs que j'aime bien, mais bon, ça se ressemble un peu. C'est un peu la porte voisine. Donc, en choisissant un dans le genre, tu sais, ça résume un peu.
Très bien. Alors, le premier dont on va parler, c'est pas un jeune livre, puisqu'il a été publié en 1863, c'est « Capitaine Fracasse » de Théophile Gautier. Alors, pourquoi vous avez retenu ce livre-là, justement, pour illustrer vos goûts?
Bien, c'est que ce livre-là, à l'époque, j'ai lu ça, j'avais peut-être 17 ans, 17 ans et demi, enfin bref, et j'avais arrêté de lire, moi, à l'adolescence, pour toutes sortes de raisons.
Lesquels?
Non,
mais... On saute. Okay.
Non, c'est pas, j'ai pas le goût de faire de prison.
Okay. Et,
non, mais je sais pas, c'était une période où, je sais pas, la lecture, là, c'était faisait pas partie de ma vie réellement. Et à un moment donné, j'étais tombé sur ce livre-là par hasard. Je pense que c'était pendant l'été, puis il y avait plus comme 2-3 jours d'affilée. Alors, mettons que ça commençait à être un peu drabe. Et... j'avais embarqué complètement, tu sais, et ça m'a redonné le goût de la lecture. Alors, c'est pour ça que ce livre-là, il y a beaucoup de signification pour moi.
Et c'était déjà un livre avec un contenu humoristique important.
Oui, entre autres. Ben, c'est ça, exactement. C'est un roman de cap et d'épée, comme on peut dire. Et effectivement, il y a beaucoup d'humour dedans. Puis, à l'époque, j'étais rarement tombé sur des livres avec un peu d'humour dedans, là. Tu sais, c'était plutôt L'étranger de Camus, des choses qui nous faisaient lire, Quelques arpents de neige. Tu sais, je veux dire, on était loin de l'humour, là. c'était plutôt... Mais, alors, lui, ça avait été vraiment une découverte, ça. Mais c'est pas nécessairement le livre que j'ai le plus aimé, là, mais il y a une connotation, il y a quelque chose de particulier, là. Tu sais, c'est très personnel.
Puis vous n'avez pas essayé de faire lire à vos filles?
Ah, ben j'en ai parlé, tu sais, mais ça, je l'ai lu, j'avais peut-être 17-18 ans, comme je disais, et j'étais loin d'être père à l'époque. Alors, peut-être que ça s'est perdu dans la nuit des temps, hein, mais je l'ai racheté éventuellement. J'en ai parlé, je ne sais pas, ils l'ont peut-être lu, remarque, ça se peut.
Alors, un premier livre carrément d'humour, Tom Sharp,
ouais.
Traduit en français par « Wilt prend son pied », en anglais, c'est « Wilt on high », c'est ça. Et il est très connu, Tom Sharp, en Angleterre, mais au Québec, ce n'est pas du tout un nom qu'on reconnaît. Vous, comment vous êtes tombé sur Tom Sharp?
C'est vraiment tout à fait par hasard, parce que ça m'arrive souvent d'aller dans les librairies et flâner, puis regarder des livres qui me sonnent une cloche, autant par la jaquette que le résumé de l'histoire. Et lui, vraiment, premièrement, le dessin sur la jaquette était vraiment très drôle, tu sais. Puis là, je disais, regardons ça. Et, alors je l'avais acheté tout à fait par hasard, comme je disais, je ne le connaissais pas. Et c'est la première fois qu'en lisant un livre, là, je riais aux éclats. C'est vraiment très, très drôle. Et après ça, je me suis intéressé à l'auteur, j'ai compris c'était qui. C'est un professeur d'université, c'est un professeur tout court, là. Il enseignait peut-être pas à l'université à l'époque, et il habitait en Afrique du Sud, et il avait monté un spectacle anti-apartheid, et il a été expulsé d'Afrique du Sud, et là, il s'est mis à écrire des romans. Donc, c'est vitriolique, c'est vraiment, là, c'est des personnages tellement abruti, là, ça n'a pas de bon sens. Alors, on sent qu'il y a une petite vengeance de sa part. Alors, c'est très, très drôle.
Il a écrit beaucoup de choses, mais il y a une série donc dont le héros, c'est Wilt, et il y en a quatre. Et on parlait de la qualité des traductions puis du fait que les traducteurs peuvent bien rendre l'humour. Je vais juste vous lire les titres de trois de ces quatre livres-là. L'autre, c'est « Wilt prend son pied ». Mais donc, les titres de la série, c'est vraiment, ça annonce. « Comment se sortir d'une poupée gonflable et de beaucoup d'autres ennuis encore? »« Comment se débarrasser d'un crocodile, de terroristes et d'une jeune fille au père? » »« Enfin, comment échapper à sa femme et ses quadruplés en épousant une théorie marxiste? » Alors, vous, c'est le troisième que vous avez retenu.
Ouais.
Il vous a intéressé plus que les autres? Vous l'avez découvert plus tôt? Comment
ben,
ça s'est
c'est
passé?
Le premier que j'ai lu de lui, parce qu'évidemment, celui de la théorie marxiste, c'est une parution assez récente. Ça. Et les deux premiers, ils n'étaient pas disponibles non plus. Hein. Ils ont réédité ses livres un petit peu plus tard, quand ils ont vu qu'ils connaissaient un peu de succès en français. Mais... Puis, il y en a écrit deux, trois autres aussi qui se passent en Afrique du Sud, qui sont vraiment très, très bons aussi. Alors, comme je disais, c'est pas autant c'est un livre en particulier comme l'auteur. Moi, c'est un auteur que j'ai découvert qui est vraiment très, très drôle. Par contre, on peut ne pas aimer du tout parce que c'est extrêmement cynique. C'est vraiment, là, oh là là, on est loin de l'eau de rose. Là.
Et dans celui-là, le héros... Si j'ai bien compris, le héros, on pense que c'est un espion soviétique. Puis là, on se met à l'encadrer, c'est
ouais,
ça?
Oui, bien, c'est ça. C'est que son personnage est toujours pris avec une espèce de commissaire de police qui est sur son cas, qui a tout le temps l'impression qu'il est en train de manigancer un complot quelconque, alors que le gars, c'est un comme on dit en japonais, un loser. Là. C'est quelqu'un qui vraiment... Enfin, qui est marié avec une femme vraiment maîtresse, là, tu sais, qui mène chez lui et qu'il passe, que ça passe par là. Alors, lui, c'est toujours il cherche à s'évader de ça et il se retrouve toujours pris dans des situations qui n'ont aucun bon sens, comme les titres que tu disais tantôt, que ce soit poupée gonflable ou les complots terroristes. Alors, c'est vraiment très, très drôle. Et étant donné que c'est un professeur, on sent qu'il y a un regard de sa part vis-à-vis de ce milieu-là qui est assez satirique, disons. Je ne suis pas sûr que ses collègues d'université ont trouvé ça très drôle.
L'humour britannique, vous l'appréciez beaucoup, vous l'aimez beaucoup.
Oui, ben, j'aime beaucoup le wit spirit, là, dans le sens que c'est concis, on y va, une phrase, un gag, tu sais, c'est vraiment... c'est un humour qui vient me chercher beaucoup, ça c'est clair.
Comment vous compareriez ça à l'humour français, par exemple?
Ben, l'humour français, c'est... C'est plus verbeux, disons qu'il y a un petit côté à quelle heure le punch. c'est différent, tu sais, disons que... Alors que l'humour britannique aussi, il y a souvent beaucoup d'autodérision. C'est très concis, peut-être de par la langue aussi, enfin bref. Mais c'est une autre manière vraiment de faire l'humour qui est très... dont je suis très proche. Tu sais, des phrases assassines, là, tu sais, dans le genre, je me rappelle plus quel auteur qui disait ça, il disait que les politiciens doivent être changés aussi souvent que les couches d'un enfant et pour les mêmes raisons. ça résume assez bien.
Tom Sharp a dit que l'humour, c'était une utilité publique. Est-ce que, pour vous, l'humour a une utilité citoyenne?
Tout à fait. Non, c'est sûr que moi, ça me sonne une cloche. Mais, tu sais, on parle toujours comme ça, c'est de l'humour très social, là, de Tom Sharp. Là, c'est... Évidemment, écoute, on peut parler d'humour pendant des heures, parce qu'il y a plusieurs manières d'en faire, puis ça. Ne serait-ce que seulement faire rire les gens, c'est un geste social aussi, dans le sens que ça crée des liens entre le public, ça détend, etc. T'sais. Mais en plus, quand tu ris de quelque chose, tu te moques de quelque chose, bien là, on tombe au deuxième degré et tout ça. Alors, c'est sûr que c'est une manière aussi d'exorciser des choses. Quand on rit de quelque chose, on a moins peur aussi. T'sais. Alors, on peut analyser ça de 36 manières, mais c'est clair que... C'est une des raisons pourquoi je fais ce métier-là, entre autres.
Mais, donc, chez les humoristes, est-ce qu'il y a la même conscience d'influencer que chez certains chanteurs, par exemple? C'est aussi présent dans votre pratique?
Bien, c'est-à-dire que certains humoristes, comme certains chanteurs aussi, tu sais, je pense que ça dépend des chanteurs. Il y a des chanteurs qui sont peut-être plus sociaux, qui ont des préoccupations. Il y en a d'autres que, bon, c'est simplement des balades. Et chaque chose est bonne, hein, tu sais. Mais c'est la même chose. Il y en a de tous les genres. Alors, ça s'apparente, effectivement. Okay.
Ouais. Bien, une belle illustration de ça, c'est Charlie Chaplin.
Oui.
Vous avez choisi son autobiographie. Donc, lui a été... D'ailleurs, ça lui a coûté cher à certains moments de sa vie. Il a vraiment pris parti dans beaucoup de situations. Alors, autobiographie, c'est un genre qui vous plaît? Ça vous accroche?
Pas vraiment. C'est que c'est assez rare. Je lis des biographies. Premièrement, parce que la vie privée des autres m'intéresse pas vraiment. Mais dans ce cas-là, c'est que c'est arrivé tout à fait par hasard. Je me rappelle plus comment je me suis retrouvé en possession de ce livre-là. Enfin, bref. C'est que... Bon, j'ai aimé ça pour plusieurs raisons, mais entre autres, la raison majeure, c'est que ça m'a donné le goût de faire le métier que je fais. Parce que c'est surtout... Moi, ce qui m'a intéressé dans ce livre-là, parce qu'il parle de sa vie privée jusqu'à un certain point, là, ses épouses, etc. Puis ça, moi, c'est pas un aspect qui m'intéressait, mais il parle beaucoup de son travail, sa manière de travailler, parce que c'est un perfectionniste là, à l'extrême. Et en même temps, c'est la chronique d'une époque aussi, parce que on parle du début des années 1900. C'était carrément l'invention du cinéma. Tout était à inventer. Et lui était là-dedans, en plein dedans. Puis, écoute, il fréquentait Einstein, Pablo Casals. Tu sais, quand même, là, je veux dire, c'est assez intéressant. Alors, il vivait une époque, je trouve, formidable, jusqu'à ce qu'arrive le McCarthyisme aux États-Unis, où là, il a été vraiment là, ostracisé et même exilé. Alors, c'est un peu ça, là. T'sais. Par contre, la biographie en tant que telle, premièrement, une autobiographie, c'est clair, c'est toujours biaisé un peu, là, parce que il parle pas beaucoup de ses défauts là-dedans. C'est clair, mais c'est quand même bien écrit, puis c'est un destin fabuleux, quand même. En plus, c'est peut-être la première grosse vedette mondiale, hein, parce que bien avant les Beatles, Michael Jackson, etc., mais il y avait une diffusion mondiale avec ses films. Et c'était un très, très grand artiste qui avait beaucoup de préoccupations sociales aussi, qui s'est impliqué beaucoup. Non, j'avoue que ça m'avait fait découvrir l'homme. Et en même temps, à peu près à la même époque, il avait décidé de repasser tous les films de Charlie Chaplin le soir à Radio-Canada, Ciné Club, là, je me rappelle plus tôt. Alors, j'avais découvert ça tout en même temps, parce que les films de Chaplin sont retirés hein, du circuit assez régulièrement pour ne pas brûler le matériel. Tu sais, c'est quand même... Enfin. Et là, j'étais retombé là-dessus, en même temps que la biographie. Et ce que, comme je disais tantôt, moi, c'est plutôt... Le point le plus crucial là-dedans, c'est son perfectionnisme et son amour du travail. Ça, c'était... C'était vraiment touchant de lire ça, tu sais, parce que, écoute, il en travaillait un coup, lui, parce que faut pas oublier que c'était la vedette principale. Il écrivait ses films, il les réalisait, il écrivait la musique. À un moment donné, tu sais, c'est assez complet, tu sais, mettons. Il n'y a plus personne qui pourrait faire ça maintenant, je pense.
Puis, est-ce qu'il abordait des questions techniques dans le livre?
Oui,
comment s'y prendre, etc.?
Bien, c'est lui qui a inventé le traveling hein, au cinéma. Tu sais, c'est quand même pas rien. Puis, il expliquait des scènes aussi. À un moment donné, il y avait une scène qui se passait. Charlot, son personnage, marchait, puis il y a quelqu'un qui avait une espèce de grosse hache, ou plus qu'une hache, là, une espèce d'arme moyenâgeuse. Là. Et l'arme arrivait juste au bout de son pied. Alors, tu sais, tu regardes ça, tu dis « wow », tu sais. Mais ils l'ont tourné à l'envers, tu sais. C'est ça. C'est parti, la hache qui lève au lieu de descendre, finalement. Et là, lui, il recule. Mais tu sais, c'était d'une ingéniosité fabuleuse parce que il n'y avait aucun critère, il n'y avait aucune référence à l'époque, là, tu sais. Alors, il inventait tout, tu sais. Et le travelling, écoute, on s'en sert encore aujourd'hui, évidemment. Maintenant, le cinéma, il y a tellement d'effets spéciaux qu'on ne sait plus trop là, si c'est des images de synthèse ou réelles. Mais lui, à l'époque, c'était vraiment... Là, il faisait tout, tout, tout. Il se produisait lui-même. Et un autre fait important, c'est qu'il s'est détaché des grosses compagnies aussi. Il a fondé la sienne, United Artists, avec Douglas Fairbanks, puis... Je ne me rappelle plus trop de la comédienne. Là. Enfin, bref, il voulait avoir le contrôle sur son contenu et sur ce qu'il faisait, puis il l'a eu. Et il l'a assumé, parce que ça ne devait pas être évident, parce que les grosses compagnies ont dû tout faire aussi pour que ça ne marche pas, évidemment, parce que c'était une immense star à l'époque. Alors, eux autres, ils perdaient cette source de revenus-là. Enfin, quelqu'un d'assez assez fabuleux.
Alors, en lisant ça... Ça vous a convaincu que c'était la voie, c'était le travail, le métier que vous vouliez faire?
Bien, ça fait partie de, tu sais, dans le sens que, évidemment, je ne me suis pas lancé dans le spectacle le lendemain, mais tu sais, c'était pas clair dans ma tête à l'époque, là, qu'est-ce que je voulais faire exactement, soit du théâtre ou seulement de l'écriture, ou en tout cas... Mais lui m'a vraiment donné le goût du métier, en général, là, tu sais. Le goût du travail bien fait aussi, le fignolage, ne pas tourner les coins trop ronds. Tu sais, oui. Bref.
Mais à ce moment-là, l'humour, c'était surtout des groupes. Il y avait Ding et Dong,
ouais.
Etc. Donc, il n'y avait pas beaucoup de stand-up, de
gens qui faisaient carrière ça. Quand j'ai commencé, moi, on avait acheté une ancienne école de village, puis on avait instauré un petit théâtre là-dedans. Et c'était vraiment un théâtre de poche, là. Il rentrait sur la scène, ici, et même... enfin, et on faisait du théâtre, des pièces, qui étaient toujours assez humoristiques. Et je travaillais avec d'autres gens. Moi, le spectacle solo, je veux dire, c'était très, très loin de moi, là. C'était pas un but dans ma vie du tout, du tout. Et à un moment donné, on a formé un trio, moi et deux copains. Et c'est là que j'ai écrit mon premier spectacle de variété, qui ressemblait beaucoup à ce que les cyniques faisaient. Tu sais, c'était beaucoup de jeux de mots, puis tu sais, des personnages, puis bon, enfin, bref. Et c'est là que j'ai vu que ça pourrait peut-être marcher, parce qu'on a commencé à faire de la tournée, on a commencé à jouer à l'extérieur, et ça fonctionnait. Alors là, tu te dis, oups, tu sais, c'est plus seulement dans mon patelin. Et les deux autres ont abandonné, parce qu'on ne gagnait pas vraiment notre vie. Alors... Et moi, j'ai continué. J'avoue qu'il y a eu des périodes de vache maigre. Et je ne sais même pas si on peut parler de vache. Mais, disons que c'est ce qui fait maintenant que je suis incapable de manger des cretons. J'ai tellement mangé à l'époque. Enfin, alors c'était quand même un assez long cheminement. Mais j'étais plutôt, justement, de l'humour en groupe. Là, parce que, comme tu disais, des gens qui faisaient ça solo... C'était assez rare. Il y avait à peu près personne qui faisait du stand-up en tant que tel. C'est arrivé un peu plus tard, ça. Une des seules personnes qui faisait du spectacle solo, c'était Yvon Deschamps. Même à ça, il y avait un orchestre avec lui, des fois, puis tout ça. Jean-Guy Moreau, qui faisait du spectacle solo aussi. Mais c'était pas un but dans ma vie. T'sais, je l'ai fait par obligation, parce que je voulais pas abandonner, mais j'avais beaucoup de plaisir à jouer avec d'autres. Là. On avait vraiment un fond noir. Là, fait que c'est arrivé un peu par accident, ça.
Okay. D'ailleurs, je ne vais pas faire une plug, mais dans votre dernier spectacle, là, vous revenez avec des comédiens, non?
Oui, c'est ça. Je joue avec deux comédiens. Ce qui est très le fun, parce que les soirs que ça ne fonctionne pas, tu peux lui mettre ça sur le dos.
Alors, vous avez choisi « Le vieux qui lisait des romans d'amour » de Luis Sepúlveda.
Oui.
C'est du réalisme magique, ce livre-là?
C'est vraiment un peu coup de poing, tu sais, parce que c'est quelque chose de totalement éclaté. J'avais jamais rien lu de tel. En même temps, c'est totalement exotique. Parce que moi, une des raisons pour lesquelles je me suis... réintéressé à la lecture et tout ça, c'est que quand j'étais jeune, je lisais quand même pas mal. Puis, moi, je viens d'un milieu modeste et tout ça. Puis, à l'époque, bon, c'était moins fréquent, mais c'était ma manière de voyager, dans le fond, tu sais. Autant par les Tintin que les Bob Moran, etc. Et dans ce livre-là, je retrouvais ça aussi. Ça se passe dans la forêt amazonienne au Brésil. Et c'est vraiment, là, écoute, c'est totalement exotique. Là, tu sais, c'est... Et une histoire très touchante aussi. C'est un vieux monsieur qui sait à peine lire. Et lui, évidemment, il demeure dans un endroit très reculé. Et son... sa hantise, c'est de recevoir à chaque mois, ou en tout cas autour d'eux, un roman d'amour qu'il lit là, 80 fois en attendant que l'autre arrive. Alors, c'est très touchant, c'est vraiment très bon. Et en toile de fond, bien, il y a tout un plaidoyer contre la déforestation de la forêt amazonienne et tout ça. Alors, c'est vraiment un livre que j'ai adoré, ça. Et c'est un livre qui est tout petit, là, je pense que c'est 120 quelques pages. Et à l'époque, j'étais entouré de... Bien, entouré, entendons-nous. Il y avait plusieurs personnes autour de moi qui ne lisaient pas souvent, qui n'étaient pas... Alors, je trouvais que c'était le livre idéal à donner aussi, parce que, tu sais, tu ne te ramasses pas avec une brique, là. C'est moins rebutant, disons. Et c'était... Alors, je l'ai donné beaucoup, beaucoup, ce livre-là, parce que je trouvais que... autant que je parlais tantôt du Capitaine Fracasse qui m'avait redonné le goût de lire, bien, celui-là... Je présume qu'il a donné le goût de lire à bien des gens aussi.
Dépaysement avec le Brésil. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez une auteure québécoise qui écrit des livres, qui est passionnée de civilisation maya. Puis elle écrit des romans qui ont beaucoup de succès au Mexique, qui sont aussi publiés au Québec par VLB. Son dernier livre s'appelle « Neige maya ». Elle s'appelle Lucie Dufresne. Vous la connaissez?
Bien, c'est ma blonde.
Vous les lisez, ces livres?
Excellent auteur.
C'est vrai. Vous avez choisi « Chien de faïence » de Andrea Camilleri, mais en fait, ce qu'on se disait, c'est que tout l'œuvre de Camilleri, vous auriez pu le choisir. Moi, je vais vous faire une confidence. C'est la première fois qu'un invité choisit un auteur que moi-même, je mettrais dans ma liste personnelle. Camilleri, c'est... chaque ligne de son texte, c'est toute la Sicile qu'on retrouve. Il a écrit des romans historiques, mais des romans policiers aussi. C'est ceux-là, je pense, que vous préférez, avec un héros qui s'appelle Salvo Montalbano, qui est une sorte de Columbo, philosophe de gauche, bourru, taciturne. On a parlé de traduction tout à l'heure, et dans ce cas-là, celui qui traduit Camilleri en français, qui s'appelle Quadrupani, est presque aussi populaire en France que Camilleri, parce qu'il a réussi à traduire tous les deux niveaux de langage. Dans Camilleri, il y a du patois sicilien, il y a des Siciliens qui veulent bien parler, donc il y a un autre accent, et il y a de l'italien standard. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Et en plus, il rend la langue italienne ou sicilienne en français dans les mêmes tournures. Il va dire, par exemple, au lieu de « qu'est-ce qui se passe », il va dire « qu'est-ce qui fut ». Ou quand il se présente, il ne dit pas « je suis Bertillon », mais il dit « Montalbano, je suis ». C'est toujours sa façon de se présenter. Vous avez apprécié ce travail-là sur la langue dans Camilleri?
Beaucoup, parce que c'est très, très coloré. Ça ressemble un petit peu à notre joie, là, quelque part. Là. Il y a une parenté. Et en même temps, c'est comme du Pagnol. Là. Les personnages sont tellement attachants, sont tellement bien campés. C'est un auteur fabuleux. Vraiment, là, c'est... Et autant lui que dans le cas de Tom Sharp tantôt, j'ai choisi ce livre-là, mais j'aurais pu en nommer 8-10 autres. C'est pas autant le livre que l'auteur, c'est que ça se déguste vraiment, et dans tous les sens du terme, parce qu'il parle beaucoup de bouffe aussi.
Oui, en effet.
Parce que le commissaire Montalbano, disons que c'est quelqu'un qui aime bien manger et bien boire. Alors, enfin bref, mais c'est vraiment la vie, tu sais. C'est pour ça, moi, je suis... j'aime bien les romans policiers, mais... Il n'est pas l'air trop noir et tout ça, je ne suis pas... Alors que ça, c'est plus une étude de mœurs, là, tu sais. Dans le fond, l'intrigue policière, elle sert à nous présenter personnages puis tout ça. Mais on vit leur quotidien et tout ça. Et c'est en Sicile, effectivement. Ça aussi, c'est assez exotique, disons. Parce que lui, il a sa maison sur le bord de la mer, puis il est tout le temps en train de prendre des grandes marches sur le bord de la mer. Disons qu'il y a certains jours, je changerais de place. Mais non, c'est vraiment hyper intéressant, ça.
Puis c'est vraiment bien de le comparer à Pagnol, parce que c'est exactement ça, c'est de présenter le milieu avec ses collègues au poste de police aussi, puis le téléphoniste qui n'a jamais transmis une fois son message, c'est vraiment folklorique. Et puis la présence de la cuisine, il y a beaucoup de romans policiers où il y a beaucoup de cuisine. Ça vous plaît, ça?
Bien, oui, tu sais, écoute, je ne suis pas maniaque, là, mais ça fait partie d'eux, hein, parce que lui, entre autres, Camilleri, c'est que, écoute, il te met l'eau à la bouche pas à peu près quand il décrit les repas, parce que le commissaire a une servante ou une bonne à tout faire qui prépare ses repas, puis là, il décrit ça. Écoute, tu sens que le monsieur est un petit peu gourmand, disons. Plus que gourmet.
Et ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi des romans historiques que je pense que vous avez un peu moins lu,
ouais.
Mais il y a toute une série intéressante qui se passe au Moyen-Âge ou en Renaissance, pas en Renaissance, mais en Sicile aussi, avec ce qu'étaient les coutumes de cette époque-là. Mais c'est votre entrevue, c'est pas la mienne. On va revenir à vos choix. La part de l'autre d'Éric Emmanuel Schmitt, c'est un auteur très connu au Québec. C'est le seul de lui que vous avez lu, c'est ce que vous m'avez dit, mais c'est le procédé là, qui vous a accroché.
Bien, j'ai trouvé l'histoire extraordinaire parce que, évidemment, c'est pour ceux qui l'ont lu ou pas lu, c'est-à-dire c'est un parallèle entre deux vies possibles de Hitler, soit sa vie là, qu'il a vécue, évidemment, et l'autre, s'il avait été accepté aux Beaux-Arts, qui aurait complètement changé le destin du monde, dans le fond. Et je trouvais ça très, très habile, parce qu'au début, quand j'ai commencé à le lire, je dis, écoute, ça ne tiendra pas la route. Là. Et ça tient la route du début à la fin. Parce que c'est pas un sujet facile, quand même. Là. Il y a un côté historique aussi, etc. Il a dû y avoir beaucoup de recherches pour écrire ce livre-là. Mais et aussi, c'est que c'est le genre d'idée que j'aurais aimé avoir. Disons que j'étais un peu jaloux. J'ai trouvé que c'était vraiment un très, très bon scénario. Parce que c'est quasiment cinématographique aussi. Là. Non, c'est vraiment... Puis c'est un bon conteur aussi, évidemment. C'est un bon auteur. Alors, ça gâche rien, évidemment. Et contrairement à certains autres de ses livres, que je trouve des fois un petit peu prêchi-prêcha, mais celui-là, c'était vraiment... Là, en tout cas, j'ai adoré, moi, personnellement. Là, c'est un des bons livres que j'ai lu dans ma vie, ça.
Et c'est un procédé, d'ailleurs, qui est utilisé dans certains autres romans. C'est, je pense qu'on appelle ça l'histoire alternative. C'est qu'on imagine ce qui se serait passé si les choses avaient été différentes, en effet. Puis là, mais non seulement il imagine ce qui serait passé si Hitler avait été admis aux Beaux-Arts, mais en parallèle, il raconte aussi la vraie histoire.
Oui, tout à fait. Un peu romancé, évidemment, là, parce que on présume qu'il est devenu l'homme qu'il était parce qu'il a été refusé aux Beaux-Arts. Alors qu'il a dû avoir d'autres raisons, quand même.
Alors, Jim Harrison, c'est un livre qui s'appelle « De Marquette à Veracruz », publié en 2004. C'est un périple à travers les États-Unis.
Oui. Ben, Jim Harrison, c'est un peu la même chose aussi. J'aurais pu en nommer plusieurs de lui parce que, tu sais, tu parlais tantôt, s'il y a des auteurs, quand il y a une nouvelle parution, c'en est un. Ça, Jim Harrison, vraiment, il n'y a pas grand-chose de lui que j'ai pas aimé. Là. C'est un excellent conteur aussi. Et une écriture, c'est assez délinquant comme écriture. Il y a quelque chose, des fois, de vraiment de très spécial. Des personnages... très bien campé, avec plein de défauts aussi. Tu sais, c'est très, 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 très humaniste. Et en même temps, c'est que lui a des racines autochtones. Alors, il y a toujours toutes sortes d'histoires de chasse et de trucs en forêt. C'est vraiment fascinant. J'adore.
Et donc, c'est un gars qui, si je comprends bien, qui essaie de retrouver la vérité sur sa famille. Son père est... alcoolique, pédophile. En tout cas, là, il se dit, j'ai peut-être un ascendant un peu compliqué. Et donc, il part pour rechercher ses racines, sa famille, ouais. C'est ça?
Et en même temps, c'est comme, bon, il repasse sa vie, et c'est comme un road movie, dans le fond. Là. Il fait à peu près le tour de tous les États-Unis, avec plein d'observations sur ce qui se passe aux États-Unis aussi, parce que il y a un côté assez critique aussi, quand même. Toujours un peu de critique sociale dans ce qu'il fait. Mais, écoute, moi, ça, lui, je suis vendu, là, pas à peu près. J'adore ce qu'il fait.
Il y a un record, j'imagine c'est un record, il va dans 38 des 50 États américains.
Donc, oui, ça.
ça fait très road book, en effet.
Il y a l'Alaska, je pense, qu'il a oublié.
On dit que c'est un livre qui traite beaucoup de la relation père-fils. Est-ce que c'est un aspect qui vous a frappé, ça?
Oui, bien, c'est-à-dire, pas nécessairement parallèlement à ma vie à moi, mais je parle, l'histoire est vraiment très touchante, là, la quête du héros et tout ça. Parce que c'est toujours, comme je disais tantôt, des milieux un peu étranges, là, tu sais, comme là, le père alcoolique, etc. Alors, c'est toujours, comme je disais tantôt, des gens avec plein de défauts, hein, comme on est tous, quelque part. Donc, c'est très crédible, c'est bien campé, et les personnages sont très attachants pour ça aussi, parce qu'on y croit, tu sais, c'est pas des héros, tu sais, parfaits, là, tu sais, on est loin de Tintin, je dirais. Mais j'adore son écriture.
La religion est très présente dans ce livre-là?
Oui, bien, ça, j'avoue, c'est un souvenir plus vague, là, okay. Ça se peut.
Mais dans son périple, là, il est constamment ramené dans l'Amérique profonde.
Oui, oui.
La religion est très présente. Et donc...
Le Bible Belt et tout ça.
Oui, ouais, il était confronté à ça souvent. Ensuite, vous avez choisi « Bouddha de banlieue » de Hanif Qureishi.
Oui.
Alors, c'est un auteur d'origine pakistanaise. Mm. Ça, c'est très important à comprendre.
Oui. Bien, c'est que c'est l'histoire de c'est une histoire qui se passe à Londres. Alors, c'est un exilé, un immigré pakistanais, d'origine pakistanaise, pardon, qui est là avec sa famille. Et c'est toutes les tribulations de la famille pour réussir à se faire une place au soleil. Puis à Londres, c'est pas évident. j'avoue, celui-là, ça fait un petit bout de temps, je l'ai lu, là, mais j'ai fait mes devoirs, là, je me suis rappelé un peu. Et c'est vraiment éclaté comme écriture parce que, évidemment, l'espèce de héros, là, il se retrouve dans toutes sortes de situations. Il se retrouve dans le show business aussi, mais par la porte d'en arrière, c'est le cas de le dire. Ensuite, son père devient comme une espèce de preacher islamiste. En tout cas, je veux dire, mais il ne croit pas vraiment, c'est juste comme une job, comme ça. Mais c'était bien avant septembre 2001. Alors, c'était vraiment très, très intéressant. En plus, ben, ça se passait à Londres, une ville que j'adore personnellement. Donc, il y avait plusieurs attraits, disons. Et c'était un univers que je ne connaissais pas du tout, du tout. Je veux dire, je ne suis pas allé au Pakistan très souvent. Non, mais tu sais, c'est autre chose complètement, pour toutes sortes de raisons, au niveau de la religion, de la culture, etc. Alors, c'était vraiment très, très intéressant, un point de vue vraiment là, très... qui m'en a appris beaucoup, autrement dit.
Puis l'écriture, c'est comme l'écriture d'un enfant.
Oui.
Ça se présente comme ça.
Ben, c'est comme un ado, un peu, là, tu sais, qui raconte toutes les tribulations de sa famille et tout ça. Alors, c'est très, très, très touchant, très bien écrit.
Cet auteur-là a eu plusieurs de ses romans qui sont devenus des films.
Mm-hmm.
Hein? Il y en a un qui s'appelait « My Beautiful Laundrette », puis l'autre « Sammy et Rosie ». Puis, ce qui est particulier, c'est que non seulement il a écrit des livres, mais c'est aussi lui qui a écrit des adaptations pour le cinéma. Mais à ma connaissance, Bouddha de banlieue, ça n'a pas été... C'est publié en 90, mais j'ai pas vu que c'était devenu un film.
Je ne penserais pas.
Mais il y a assez d'aventures là-dedans pour,
oui, c'était, pour faire... Oui, c'était très imagé. C'était vraiment... Ça aurait fait un excellent scénario de film, effectivement.
Quand on lit sur lui, on l'appelle toujours irrévérencieux. Est-ce que vous aimeriez ça qu'on... Pas sur votre pierre tombale, on ne va pas vous souhaiter ça, mais... qu'on dise de vous, Lemire était irrévérencieux.
Oui, parce que ça veut dire que tu te moques aussi d'un peu de l'establishment, de certaines valeurs établies. Et l'humour, ça sert un peu à ça aussi, hein, quelque part. Alors, en humour, je pense que c'est un terme positif, effectivement.
Motel Blues, publié en 89. L'auteur, c'est Bill Bryson.
Oui.
Un autre road book, comme on dit, road movie. Donc, ça se passe dans l'Amérique profonde. Et là, dans une vieille Buick, le héros visite lui aussi une quarantaine d'États.
Oui, bien, c'est ça. Ça, c'est pas un roman, c'est un récit de voyage. Alors, c'est Bill Bryson qui a écrit quand même beaucoup de volumes, un peu du même genre. Et c'est un Américain qui a émigré à Londres. Et là, il revient, je pense, peut-être une dizaine d'années après s'être marié, je ne sais trop. Il revient faire un genre de pèlerinage, entre guillemets, aux États-Unis pour se rappeler son enfance et tout ça. Et là, c'est vraiment très, très drôle parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, premièrement, et qui a une vision de l'Amérique. Disons que c'est parce que là, il se retrouve aussi en Amérique profonde. Comme à un moment donné, il compte une anecdote et il se promène dans un chemin de campagne, un rang, comme on pourrait dire ici. Et il rencontre quelqu'un, puis le gars, il fait juste y envoyer la main, tu sais, puis... Puis ils disent, il doit être encore là en ce moment, les larmes aux yeux d'avoir vu une auto. C'est vraiment très drôle.
Comment vous avez découvert ce livre-là?
Ah, ben, par hasard aussi, c'est parce que j'aime bien les récits de voyage. Remarque, j'en ai pas lu tant que ça, mais j'en ai eu quelques-uns. Mais j'aime ça quand il y a une touche d'humour, quand il y a une vision. C'est pas juste là, raconter, je suis allé là. Enfin, bref. Et lui, j'étais tombé par hasard là-dessus. Puis comme je disais, j'avais lu le résumé du livre et tout ça. Puis j'avais feuilleté un peu. C'est comme donc ça. Ça a l'air vraiment bon, ça. Parce qu'il y en a écrit peut-être 7-8, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Enfin, qui ont été traduits. En tout cas, il y en a peut-être écrit plus que ça. Et alors, c'est tout à fait par hasard. C'est pas une suggestion de personne.
Bien, c'est-à-dire, il avait été recommandé par Folia. Je me suis demandé si c'était pas l'influence. Non?
Non, je ne
savais pas. Donc, c'est un Américain qui vit en Angleterre, qui retourne aux États-Unis, puis qui a fini par s'établir en Angleterre.
Ouais.
Bien, il n'est pas mort. Il peut encore revenir. Ben... Et, son humour, c'est plus américain que britannique.
Le mélange des deux. Il y a un côté britannique, effectivement, mais quand même, ça s'apparente, hein, à un moment donné. Je vois pas vraiment de grande différence, parce que, évidemment, quand tu parles des États-Unis, il y a une vision... un peu détaché, parce qu'il ne vit plus là depuis des années. Alors, c'est certain que, comme le font plusieurs Européens, quand ils arrivent aux États-Unis, ils disent, bien, écoute, il n'y a pas beaucoup de culture ici, on mange mal. Tu sais, les observations d'usage, les petits motels cheap sur le bord de la route, tu sais, en Europe, tu n'as pas vraiment ça, là, tu sais, alors... C'est tout ce côté-là dont tu se moques, entre autres. Alors, c'est sûr que ça peut s'apparenter à l'humour britannique, effectivement. Mais, écoute, ça n'a pas de voisine, tout à fait.
Malavita, de Tonino Bellacquista.
Oui.
Donc, malgré les apparences, là, son nom, c'est un auteur français. Et lui, il raconte une histoire, vraiment, il fallait y penser. C'est un mafieux, avec sa famille, qui sont soi-disant repentis. Et donc, ils sont dans le programme de relocalisation du FBI. Puis il l'envoie dans un petit village de 7000 habitants en Normandie, en France. Donc, à partir de là, on découvre graduellement qui est ce gars-là.
Bien, c'est ça. C'est que ce qui est drôle, c'est le choc culturel, parce que le gars, c'est un mafioso qui vient de Newark, au New Jersey. Alors, déjà, on peut présumer qu'il n'y a pas une grosse culture. Et il se ramasse dans un petit village en Normandie. Il est obligé de s'inventer une vie et tout ça. Et il ne sait pas trop. Puis évidemment, c'est quelqu'un d'assez orgueilleux. Hein? Il était dans la mafia, puis il emmenait large. Alors, de devenir l'arbin de service, il n'est pas trop intéressé. Alors, il se crée une vie. Il s'invente une vie. Et là, il se met à vouloir écrire. Et les gens s'intéressent à ce qu'il écrit, c'est-à-dire... Et puis lui, évidemment, c'est sa biographie. T'sais. Alors, il raconte l'histoire d'un mafioso, lui-même. Alors, les gens pensent que ça n'existe pas, que c'est un roman. C'est toute l'ambiguïté, mais en tout cas, c'est vraiment très, très drôle. C'est bien tourné. Ça aussi, ça ferait un excellent scénario de film, d'ailleurs. Et, ben, tu sais, il y en a eu tellement de choses là-dessus, dont la série télé Les Sopranos, tout ça. Mais c'est toujours intéressant de voir ces gens-là qui sont très puissants, qui ont beaucoup de sous et qui amènent l'âge et qui se retrouvent dans une situation où leur manque de culture, leur manque de connaissances paraît beaucoup. Donc, ils sont comme, je pourrais dire, donc, infériorisés, mais ils essaient de combattre ça, un peu comme dans Les Sopranos, quand le Tony Soprano se retrouve chez la psy. Ça s'apparente un peu à ça, mais ça, j'adore ça. Moi, je trouve ça, c'est un procédé. Puis tout le côté aussi de protection de témoins, etc. Parce qu'en même temps, à l'époque, quand j'avais lu ça, je pense qu'il venait de condamner Mom Boucher. Puis c'était grâce à un délateur. Alors, tu te dis, puis le délateur, c'était Godasse Gagné, je pense. Alors, il faut que tu trouves une nouvelle identité. Puis je faisais un gag là-dessus. Ils ont trouvé une nouvelle identité. Godasse Gagné s'appelle maintenant Gogoun Gagnon. Et... Ils l'ont changé de bord de rue. Puis ils se peignent sur le côté maintenant. Il y avait un côté comique à ça. Là. C'est une belle histoire.
Mais sérieusement... Je pense que vous-même, vous avez été fait l'objet d'intimidation à cause de certaines blagues que vous aviez faites dans des spectacles, non?
Non, mais je t'ai dit de ne pas parler de... Irais-tu parti mon auto? ceci dit, c'était de l'intimidation quand même. Je ne sais pas si on peut appeler ça subtil. Enfin... Non, c'est parce que je faisais un numéro à l'époque sur les Hells Angels, puis je jouais à l'Olympia à Montréal. Pas l'Olympia dans le Gay Paris, mais dans le Montréal Gay. avant le spectacle, il était peut-être 8h-2, puis il y avait toute la première engène avant, il n'y avait personne. Alors là, on se dit, ben là, on va attendre parce que... Mais qui arrivent vont déranger tout le monde parce que c'était un guichet fermé. Avec là, on savait bien. Que... Et finalement, il arrive. Écoute, il est à peu près 18, les bras gros de même, avec le T-shirt qu'il veut fendre, là, tu sais. Avec 4-5 danseuses, avec tout ça. Le monde m'écoutait plus pantoute, évidemment, c'est ça. Et il venait, je pense, vérifier, voir si c'était correct ce que je disais sur eux autres. Et je pense qu'ils n'ont pas trop saisi. Enfin. Mais... Parce que c'était assez virulent, mais je pense que c'est parce que je faisais un Hells qui dénonçait le club Compassion. Il trouvait que c'était de la concurrence illégale. Enfin, complètement absurde. Mais je pense qu'ils n'ont pas trop saisi. Fait que, tu sais, ça a fait comme... Mais après le spectacle, comme je disais tantôt, j'étais allé voir mon directeur technique, je lui ai dit, tiens, tu partir mon auto juste pour être sûr. Mais, et le lendemain, Mom Boucher était venu voir le show. Mais ça, ils me l'ont dit plus tard, mais lui était venu voir avec 4 bodyguards. Et il a ri.
Bon.
Mais il amenait l'âge à l'époque. Alors, c'est sûr que. Puis il y a quelqu'un aussi qui avait eu un message de leur part, un autre humoriste, je ne sais pas si c'était Michel Barrette ou Jean-Michel Anctil, qui avait dit, écoute, il y en a un qui m'a accroché quelque part, puis il m'a dit, écoute, tu diras à ton chum Lemmy que c'est les jokes qu'on commence. Mais écoute, moi je trouve qu'en même temps, j'étais sur scène, tu sais. À la télé, c'est plus délicat hein, quand même, parce que, mais sur scène, là, écoute, tu es devant 700-800 personnes ou 1000 personnes à la fois. Tu sais, je veux dire, puis je ne suis pas un cave non plus, je m'arrange pas de me retrouver dans des cas de libelle quand même. Mais en même temps, écoute, c'est des tueurs, là, s'entends-tu là-dessus? Fait que, tu sais, un peu-tu... Enfin. Mais des gentils tueurs, hein?
Voilà.
C'est pas parce qu'ils ont tué 3-4 personnes que... Tout le monde a des défauts. Oh, Jesus. Y a-tu du montage?
Ben, on l'avait, non. Non, non, ça, ça t'a...
T'es en train de creuser mon trou, c'est le cas de dire.
Quelle marque ton auto?
C'est des gens que je respecte énormément. Oui.
Non, mais...
Et qui ne méritent pas si... d'être calomniés.
Non. C'est comme si on l'avait planifié, parce que le prochain livre, c'est effectivement celui qui a tué. Celui qui a tué Trotsky.
Oh my God!
Ben, il est vieux. Il est bien vieux. C'est l'homme qui aimait les chiens de Leonardo Padura.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'homme qui aimait les chiens?
Ben, c'est l'histoire de Trotsky. Et c'est vraiment très intéressant aussi, parce que moi, j'avoue, je connaissais pas tant que ça. Là, je connaissais de loin. Et toute la haine de Staline vis-à-vis Trotsky, parce que c'était son talon d'Achille, dans le fond, parce que c'était le penseur, alors que Staline, c'était la brute épaisse, là, je veux dire, il est mort, hein?
Okay. Oui, oui, oui.
T'es en train de m'en faire des amis,
mais... Oui.
Mais, alors, c'est toute la chronique de l'époque, parce que, bon, il a fréquenté Frida Kahlo, Diego Rivera, c'est-à-dire, il vivait au Mexique. Il était obligé de s'exiler constamment parce que Staline envoyait des tueurs pour l'éliminer constamment. Alors, c'est vraiment intéressant, parce qu'en même temps, moi, Trotsky, tu sais, bon, comme tout le monde, on avait entendu parler, mais je connaissais pas vraiment l'histoire. Ceci dit, c'est pas un livre d'histoire, là, quand même, là, c'est un roman aussi, là. Mais un roman historique, je pense, qui est assez bien fouillé. Et en même temps, c'est que c'est tout un tournant de l'histoire aussi, parce que si Trotsky avait pris la place de Staline, je pense que le monde aurait pris un autre tournant aussi. Alors, c'était bien intéressant pour ça. C'est très, très bien écrit. Et en plus, c'est un auteur, Leonardo Padura, c'est qu'il écrivait des polars. Lui, c'était un Cubain. Et ce livre-là est vraiment complètement autre chose, là, tu sais. Parce que ces polars, j'en avais lu un ou deux, puis bon, tu sais, pas plus que ça. Alors que celui-là, vraiment, j'ai dévoré, là, c'est... très, très intéressant. Très
bien. Il parle de Cuba contemporain aussi.
Aussi,
hein?
Oui.
Un peu la désillusion.
Tout à fait, tout à fait. C'est, ben, c'est parce que, quelque part aussi, Cuba, c'est parce qu'à un moment donné, on ne peut pas parler d'une très grande réussite, là, dans le sens que okay, ça a bien été pendant un bout, mais mettons que depuis la chute de l'URSS, là, c'est plus dur un peu. Puis les libertés individuelles, et puis etc., les difficultés économiques, et tout ça, c'est un peuple vraiment qu'on doit respecter énormément, parce qu'ils ont fait des grandes choses et tout. Mais à un moment donné, ils disent « Oups, ils ont frappé le petit bout de l'entonnoir », comme on dit, puis... Ça va un peu moins bien. Alors, c'est une critique de tout ça. C'est vraiment très, très bien. Très bon livre, ça.
Le dernier que vous avez choisi va nous ramener à Chaplin, parce que William Boyd, c'est celui qui a écrit le scénario du film Chaplin. Et en français, c'est « Comme neige au soleil », en anglais, « An ice cream war ». Alors, comment vous l'avez découvert, William Boyd?
Ça aussi, c'est un pur hasard. Puis c'est une très belle découverte, parce que c'est un auteur que j'adore. C'est que la prémisse du livre, ça se passe à l'époque de la Première Guerre mondiale, ça se passe en Afrique, donc c'est extrêmement exotique aussi. Il y a quand même beaucoup d'humour aussi, hein? C'est un livre assez satirique vis-à-vis de l'armée, entre autres. Celui-là, ça fait un bon bout de temps que je l'ai lu, là. C'est 20-25 ans certain. Alors, écoute, je suis allé refouiller un peu, là, ça m'a rappelé, « Ah oui, OK, regardons ça. » Parce que j'ai tout lu ses livres, alors à un moment donné, tu viens, on les mêle un peu.
Mais ce que je comprends, c'est que c'est en Afrique, et que donc les Allemands et les Anglais, mais qui occupent des territoires africains,
tout à fait,
s'affrontent au pied du Kilimanjaro. Là,
tout à fait. Oui. Puis il y a quelqu'un là-dedans, je ne me rappelle plus du nom du personnage, qui perd sa ferme, qui est réquisitionné par les Allemands, et là, lui, il décide de s'enrôler pour les Britanniques. Tout est une histoire. Et le gars, le personnage principal, son frère est censé se marier. Et là, arrive il est obligé de s'enrôler et tout ça. Et là, il se ramasse en Afrique. Lui-même veut le suivre. En tout cas, il y a une espèce de colonel d'armée là-dedans qui est un abruti, là, qui envoie quasiment les gens à l'abattoir, là, tu sais. Et c'est là qu'est l'humour, là, parce que quand même, on ne coupe pas le monde à une petite rondelle. Là, c'est comme une manière de bien tourner ça. Mais c'est hyper exotique. Là, c'est un voyage vraiment fabuleux. Et ça m'avait fait, et surtout, ça m'avait fait découvrir cet auteur qui a écrit plein d'autres choses. Entre autres, il avait écrit comme un livre qui est inspiré des Confessions de Jean-Jacques Rousseau, qui est vraiment très, très bon aussi. Enfin, mais William Boyd, c'est une belle découverte, ça aussi.
Merci beaucoup, Daniel Demire. Grâce à vous, on a découvert des auteurs dont on entend rarement parler.
Hein?
Et un peu à la croisée entre les voyages et l'humour. Donc, c'était une rencontre vraiment très enrichissante.
Ah, ben,
merci
c'est
beaucoup.
Gentil. Merci.
Daniel a accepté gentiment de se prêter au jeu des questions. Donc, pour un petit 5 minutes, si vous avez des choses que vous voulez souligner, discuter avec lui, des questions, d'autres questions à lui poser, les micros sont là, ne vous gênez pas. On a encore 5-6 minutes avec lui. Allez au micro. Mais la question, je la devine, c'est, on en avait parlé brièvement tout à l'heure, il n'y avait pas d'auteur québécois dans la liste, mais il y en a un que vous auriez voulu recommander.
Oui, bien, ça dit, en même temps, j'essayais d'éviter les lieux communs, tu sais, comme, entre autres, un des derniers livres de Danny Laferrière que j'ai adoré, je ne me rappelle pas du titre, là, où il parle de son épopée en Haïti. Mais je présume que tout le monde a aimé ça, donc tu ne découvres pas grand-chose en parlant de ça. Une auteure que j'ai découvert récemment, Jocelyne Saussier, une auteure d'Abitibi, qui a écrit « Il pleut des oiseaux », un livre formidable. Mais je l'ai découvert après que j'ai donné ma liste. Alors bon. Mais écoute, pour moi, ça n'a pas de langue. Là. Un bon livre, c'est un bon livre. Alors, tu sais, j'ai essayé de mettre une couple d'auteurs français aussi, mais écoute, c'est pas évident. Oui.
Je vous remercie de votre présentation sur vos lectures, mais moi, j'ai une autre observation à faire. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup une émission de fin d'année créée par vous, scénarisée par vous, parce qu'avec tout ce qui se passe au fédéral et au provincial, il me semble que vous auriez énormément de matière et que ça pourrait être très, très, très intéressant. Hey.
Bien, vous avez fait un ou deux, 98,
je l'ai fait pas mal solo. Puis en 91, j'avais fait un numéro dans le Bye Bye qui était écrit par Jean-Pierre Plante et qui était en direct. Là. Non, mais je vous remercie, c'est très gentil de votre part, mais c'est pas à moi qu'il faut dire ça.
Bonjour. Est-ce que vous seriez intéressé éventuellement à écrire des choses dramatiques, exclusivement dramatiques?
Pas vraiment, parce que je pense que le danger aussi dans ce qu'on fait, c'est de penser qu'on peut être bon dans tout. Et le drame, parce que quand tu écris sur un sujet, il s'en va. Des blagues. Non, mais c'est que quand tu écris sur un sujet, il faut que tu te plonges dedans quand même beaucoup, tu fais de la recherche. Alors, si tu parles de drame, ça veut dire que tu te plonges là-dedans là, pendant des mois et des mois, et je suis pas sûr que ça me tente. C'est, par contre, la comédie dramatique, ça, j'aime beaucoup, là, mais purement dramatique, je suis pas certain.
Dernière question, monsieur.
Oui. Les DD de Sally Sapin, là, tu les as tous écoutés?
Excuse-moi, j'ai pas
compris. Les DD de Sally Sapin, tu les as tous écoutés en DD?
Oui.
Puis, Garnet Cassop, puis, quand tu as ta ministre, puis, as-tu donné des signatures de Togas? Non,
Jesus. Oui, sûrement.
Ouais, t'as que des fois, tout est ici, là? T'es ici pour faire ça par année.
Merci, pas de problème.
T'as-tu des tickets aussi pour moi? Des tickets pour te ça.
Alors, merci beaucoup. Bon après-midi. Bon retour au travail.
Nice try. Merci. Ben, écoute,